Salut Guillaume.
Salut Marc.
Je suis ravi de te retrouver. On va faire une émission, on va faire des émissions sur les champignons. C'est un thème que j'avais largement pas assez couvert, même pas couvert du tout, là, en 3 ans de baleine sous gravillon. On annonce la couleur, on est à l'été 2023. Moi, je suis à Paris et on fait un entretien en visio via Skype. Et toi, d'ailleurs, t'es où, là, Guillaume?
Alors moi, je suis en Vendée là actuellement et je profite des vagues et de la mer.
Ouais. Il se peut qu'il y ait des cris de mouettes, c'est drôle parce que je t'ai parlé plusieurs fois et souvent en arrière-fond il y a des cris de mouettes et c'est vraiment génial, donc les auditeurs sont pas étonnés s'ils entendent des mouettes. Guillaume Lopez, on va te présenter. En gros, tu es notre spécialiste champignon. T'as 27 ans, tu es né à Gisors en région parisienne. Guillaume, tout simplement, quel est ton parcours?
Alors moi j'ai un parcours qui est extrêmement autodidacte en fait. Je dis souvent que j'ai fait l'école de la vie parce que j'ai commencé avec beaucoup de certitudes dans ma jeune enfance. En fait à 9 ans ma mère a eu la fantastique idée de m'offrir un aquarium d'eau de mer et donc j'étais passionné par le milieu marin et jusqu'à mon entrée à la fac j'étais persuadé du coup de vouloir faire un métier dans cette veine. Donc je rentrais dans la faculté à Vannes, campus de Thoigny, en fac de biologie, écologie et environnement littoraux, pour devenir océanographe. Et finalement, en fait, j'étais à côté passionné par le Japon. Donc quand j'ai commencé à travailler pour financer mon premier voyage au Japon, j'ai commencé à utiliser mon temps dans les transports pour aller à Paris, parce que je suis originaire de la région parisienne, comme tu le disais. Et en fait, ce temps de transport, je l'ai utilisé à lire des bouquins. Et je me suis dit, je me suis intéressé notamment à la nutrition, et j'ai commencé à avoir une perspective assez vaste de ce qu'était la santé. Et ça m'a légèrement détourné de ma voie initiale. Donc j'ai quitté les bancs de la fac. J'ai commencé en fait à revenir finalement à mes premiers amours parce que quand j'avais cet aquarium d'eau de mer, finalement, c'était assez traumatique pour moi de me dire bon bah tiens, je vais investir mon petit argent de poche de Noël, mon petit argent de poche d'anniversaire pour m'acheter tel ou tel poisson. Et au final, bah si on fait pas bien les choses avec un aquarium, et Dieu sait que les cycles biochimiques sont fragiles dans un aquarium, eh bien le poisson il meurt tout simplement. Et donc j'ai eu comme ça très jeune cet ancrage au réel et en même temps ce dialogue en fait entre la théorie et la pratique, parce que du coup ma mère me disait mais lis avant de vouloir acheter tel ou tel poisson, avant de vouloir prendre tel ou tel corail, algues et j'en passe. Et du coup c'est un peu cette démarche que je maintiens aujourd'hui au quotidien.
D'accord. Alors moi, je voudrais remercier à ce stade quelqu'un qui est Pierre Gilbert, qui est un ancien invité de Combat. On avait parlé de géomimétisme avec Pierre, qui est un spécialiste en gros des solutions pour préserver notre climat grâce à des solutions naturelles, en préservant nos zones humides, plutôt que des solutions techno-solutionnistes. Pierre était venu nous raconter ça. Et tu es venu faire un MOOC, en fait, un cours chez Sator, qui est un moyen de suivre des formations par Internet, qui est dispensé par Sator, qui est un organisme qu'a créé Pierre, qu'on salue. Et c'est grâce à Pierre qu'on se connaît. Et moi, ayant été très faible, voire inexistant sur les champignons depuis le début de Baleine sous gravillon, bah, je suis bien content de t'avoir trouvé parce que tu es jeune, tu es passionné, tu es autodidacte. Et Dieu sait que j'aime les autodidactes, voilà, qui ne se prennent pas la tête, qui sont humbles, qui ont tout appris par eux-mêmes et qui nous fait l'honneur de venir nous raconter ça à Baleine. Tu viens de nous résumer ton parcours, donc encore une fois, le maître mot, c'est autodidacte, hein, lycée agri, puis fac de bio, désir d'être océanographe, j'ai bien compris. Tu as vécu au Japon. Tu as parlé de ta passion pour l'aquariophilie, de cet aquarium. Et puis, j'aimerais que tu nous dises comment tu en es venu à cette passion dévorante pour les champis.
Alors c'est vachement intéressant en fait parce que je pense que je fais partie d'une certaine nouvelle génération de mycologues. Jusqu'ici, la mycologie, la porte d'accès royale, la porte principale, c'est qu'on dit, c'est que les mycologues rentrent par la casserole. Parce qu'en fait, on s'intéresse tout simplement à l'aspect culinaire des champignons. Et moi, en fait, quand je suis parti à la fac, j'ai dû laisser derrière moi ce petit aquarium. Du coup, je me suis réintéressé à peut-être mon premier amour avant même les aquariums, qui était justement le jardinage. Bah, c'était le début de la permaculture, toutes ces choses qui me semblaient faire beaucoup de sens. Et en m'intéressant à la permaculture et notamment aux écosystèmes forestiers, je suis bien évidemment tombé sur la symbiose mycorhizienne. Et là, c'était pour moi fantastique en fait parce que c'était ce que j'avais perdu d'une certaine manière dans l'aquariophilie, c'est-à-dire la symbiose entre les zooxanthelles et les polypes qui forment donc les coraux, cette symbiose marine qui est essentielle pour notre planète. eh bien, je la retrouvais sous la forme des mycorhizes. Et donc, voilà, moi, je suis rentré dans la mycologie via une passion pour la symbiose et notamment pour celle mycorhizienne. Et puis depuis, bah, plus je creuse dans le monde fongique, plus je me rends compte de l'étendue de ça et je trouve ça fantastique.
Ouais, Guillaume, moi je dis tout de suite, ce qui m'a intéressé avec toi, c'est qu'on va pas faire qu'un espèce de cours magistral sur les champis. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va devoir passer par quelques bases pour qu'on comprenne bien toute la suite. Mais ce qui est intéressant, dans aussi bien le MOOC que tu as fait chez Sator et là les émissions qu'on fait ensemble, c'est que toi tu as une vraie vision pour les champignons. C'est-à-dire que, enfin, il y a un de tes chapitres qui s'appelle prodigieusement « Le 21e siècle sera fongique ou ne sera pas ». J'aimerais que tu nous égrènes quelques exemples pour qu'on prenne tout de suite conscience de l'importance des champignons. Ils pourraient avoir un rôle immense, ils ont déjà un rôle immense pour réguler le climat, mais aussi pour mille autres choses, de la pharmacologie, des molécules pour notre santé, en passant par l'agriculture, en passant par même la tech, c'est-à-dire qu'on utilise déjà des champignons pour comprendre mille choses. Donc, est-ce que tu pourrais pas nous allécher avec toutes ces raisons qui font que le 21e siècle sera fongique ou pas selon toi ?
Ouais, alors en fait, on va faire un bon cookie ensemble. Et le cookie, ce qui le rend appétissant, c'est les pépites de chocolat dessus. Donc, je vais te donner effectivement quelques pépites. Par exemple, on a aujourd'hui des substituts de plastique qui sont pensés grâce au mycélium. Donc, en fonction de la structure du mycélium, on va avoir des consistances différentes, ce qui va permettre en fait de créer différents polymères plastiques, mais du coup biodégradables, grâce au mycélium de champignons. Et donc, on va pouvoir remplacer tout un tas d'applications dans nos sociétés. Par exemple, on va pouvoir substituer le polystyrène pour l'isolation avec du mycélium fongique. On va pouvoir également substituer les matériaux les plus durs, par exemple le PVC avec du mycélium fongique. Et puis également, le champignon, c'est des opportunités de dégradation de tous les polluants qu'on a créé jusqu'ici. Donc on parle par exemple même des explosifs comme la TNT, on parle également des colorants synthétiques qu'on utilise pour teindre nos vêtements, on parle également des antibiotiques, des hormones qu'on utilise pour la contraception féminine qui sont en train de transformer les populations de poissons. En fait, on a la capacité de régénérer complètement les dommages qu'on a causés à l'environnement grâce à l'arsenal enzymatique et au pouvoir métabolique fascinant des champignons.
Oui, il y a mille autres choses qu'on verra en détail avec toi dans un prochain épisode, mais il y a tout ce qui est bio-indicateur, il y a des recherches qui intéressent des molécules contre le cancer, il y a ce qu'on appelle le wetware, contrairement au software, et ben c'est tout ce qui est... Ben, dis-nous, c'est quoi le wetware en une phrase ?
Ouais, alors le wetware, c'est cette idée d'inclure une composante organique dans les ordinateurs. Et donc, du coup, en fait, on a le software qui est le partie logiciel, le hardware qui est l'appareil qui va opérer toutes ces programmations. Et puis le wetware, ce serait une composante organique. Notamment, donc, les champignons sont étudiés dans ce cadre-là parce que les champignons sont capables de prendre des décisions et ils prennent des décisions qui sont non binaires. C'est-à-dire des décisions qui ne sont pas aussi tranchées que ce que font les ordinateurs actuels. Et ça nous permet en fait d'avoir des nuances supplémentaires dans la manière de prendre les décisions. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
C'est prodigieux ce que tu dis. Il y a plein d'autres domaines qui intéressent la recherche de manière extrêmement générale. Il y a tout ce qui est recyclage des déchets, y compris agricoles. L'huile de palme, malheureusement, et la canne à sucre produisent 95% et 83% de déchets végétaux que les champignons sont capables de retraiter. Les biotech sont intéressés par les champignons. Et la liste est encore longue, hein. Il y a toutes les molécules pharmacologiques. Il y a la fameuse psilocybine qui est à l'origine de la molécule du LSD. On en parlera avec toi, qui a été découverte en 1938, si je dis pas de bêtises, si je t'ai bien lu, qui opère un retour en grâce après avoir été diabolisé pendant quelques décennies. On y reviendra avec toi. Mais, comme j'avais promis, mon cher Guillaume, on va commencer par le commencement. On va quand même partir de la base, comme on aime bien faire à Baleine sous Gravillon, et on va donner un peu les bases qu'il faut connaître sur les champignons. Et si tu veux bien, on va partir de quelque chose que j'adore, qui est tout simplement l'étymologie. C'est un joli mot, champignon, mais c'est un mot qui n'a plus aucune valeur scientifique. C'est-à-dire que je vois que tu fais un grand oui de la tête.
Ouais,
je vais commencer par donner l'étymologie de champignon et tu vas me dire pourquoi ça n'a aucune valeur scientifique. Mais grosso modo, champignon, c'est un vieux mot. L'étymologie de champignon vient tout simplement d'un vieux mot français qui est champinuel, qui date du XIIIe siècle, qui lui-même vient du latin campinolius, qui veut dire le petit produit des campagnes, le petit produit des champs. C'est de là que vient notre champignon français. Et avant que tu m'enchaînes pour me dire pourquoi scientifiquement ce mot n'a aucune valeur, je voudrais quand même dire que dans toutes les autres langues, il a des noms différents, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'en anglais, comme tu le sais, champignon se dit mushroom. Et là, c'est drôle parce que ça vient du mousseron français, de ce champignon dont on pense qu'il poussait dans la mousse, et on retrouve mousse là-dedans, donc c'est drôle. En allemand, ça n'a rien à voir. Le champignon se dit der Pilz, P-L-I-Z. En espagnol, le champignon se dit hongo avec un H. Et en italien, ça ressemble, mais ça se dit fungo avec un F et un U. Donc voilà, des mots très différents dans toutes les langues. Pardon, j'ai passé du temps sur ces histoires d'étymologie, mais dis-moi pourquoi ça n'a aucune valeur scientifiquement champignon.
Scientifiquement, effectivement, champignon, aujourd'hui, c'est un terme assez scabreux à utiliser parce que dans la langue française, on regroupe sous l'égide champignon à la fois les espèces qui appartiennent au règne fongique, c'est-à-dire les fungi, et en même temps, on parle des champignons comme étant le sporophore, en fait, c'est-à-dire cette partie sexuelle.
Le chapeau, quoi.
Exactement, le chapeau de champignon qui va donc émerger du sol et qui va être, en fait, son moyen de se reproduire. Donc en fait, quand on voit un champignon au sens courant du terme, en fait, c'est un petit peu comme si on voyait une grappe de raisin sortir du sol, sauf que bah l'arbre qui a permis de générer cette grappe de raisin, et je mets des guillemets, c'est un arbre qui est souterrain qu'on appelle le mycélium, et donc 95% du temps, le champignon au sens des fungi va être présente sous la forme d'un réseau qui se déploie sous nos yeux et en même temps qui nous est caché, qui est donc ce mycélium. Et ça, c'est 95% du temps, ce qu'on appelle de manière plus scientifique, sous la dénomination de fungi, le champignon en fait.
Oui, alors ce que tu appelles les fungi, ça a d'autres noms, mais là pour le coup, ce sont les mycètes ou les mycotas, ou encore la fonge en français, et c'est carrément le nom d'un règne. Alors, celles et ceux qui nous écoutent savent qu'il y a le règne animal, il y a le règne végétal, et ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est que les champignons n'ont officiellement été sortis des végétaux qu'en 1959. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. C'est étonnant. On n'a pas su où les classer, les champignons, mais ils ne sont ni végétaux, ni animaux. C'est un règne à part.
Oui, donc c'est super intéressant, effectivement, cette étape de l'histoire, parce que comme je le disais, le champignon, la plupart du temps, en fait, il nous est caché. Il vit sous cette forme de mycélium qui se répand comme ça sous nos pieds, dans différents substrats, sous nos pieds et sur nos pieds, des fois même. Parce que le pied d'athlète, cette mycose bien connue, c'est une mycose qui nous contamine, nous les hommes.
Et qui est un champignon.
Qui est un champignon, du coup, effectivement. Et donc, en fait, le champignon, il a été vraiment étudié à partir du moment où on a eu les outils pour l'étudier. Et ces outils-là, en fait, sont principalement des outils liés au séquençage ADN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on fait des estimations sur le nombre de champignons qu'il existerait sur notre planète. Et on a trouvé le nombre hallucinant de entre 2,2 millions d'espèces et 3,8 millions d'espèces. Sachant qu'aujourd'hui, on en connaît environ 150 000. Ce qui fait qu'on connaît environ 6 à 8% de l'estimation de la diversité fongique. Et parmi ces 6 à 8% que l'on connaît, eh bien, seulement 15 000 espèces forment des sporophores, c'est-à-dire cette structure sexuelle qu'on a nommée jusqu'ici champignon. Et donc, effectivement, on connaît très très peu les champignons. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'histoire, au début, le champignon, c'était une nourriture du bas peuple. En fait, les nobles ne mangeaient pas du tout de champignons, sauf la truffe, parce que la truffe était considérée comme un aphrodisiaque, et que la truffe n'avait pas cette réputation d'être un champignon. Et donc, en fait, les premiers qui se sont intéressés réellement aux champignons, ce sont les botanistes. Bien évidemment, comme on a un biais de négativité dans notre cerveau, on a toujours tendance à croire que les choses sont d'abord négatives et ensuite, en général, on découvre l'aspect positif des choses. Et donc, on voyait les champignons comme des parasites des plantes. Et donc, c'était majoritairement les botanistes qui s'occupaient de la question fongique sans y avoir placé un règne dessus. On pensait que c'était une petite proportion du vivant qui était sous cette forme fongique, et donc on y prêtait peu attention. Et puis également, il y a des organismes en fait qui étaient autrefois classés chez les E-fungi, le E en biologie, en latin ça veut dire les vrais, donc les vrais champignons. Dans cette catégorie des vrais champignons, en fait, on classait des espèces comme le mildiou, le Phytophthora infestans, qui se sont avérés être des zoomycètes, Et donc les oomycètes, leur principale différence avec les champignons, au sens strict, c'est de contenir de la cellulose là où les vrais champignons contiennent de la chitine. Et donc on pourra parler de l'histoire des champignons qui donc ont émergé des océans et qui faisaient partie à la base d'un groupe qu'on appelle aujourd'hui les chytridiomycètes, des champignons qui vivent donc dans l'eau. Et ces champignons-là, en fait, sont faits avec des tubes composés d'une matière qu'on appelle la chitine.
On ne pouvait pas rêver meilleur enchaînement, cher Guillaume. On a tout juste ouvert la porte qui donne sur le monde incroyable des champignons grâce à toi. Et je vais te retrouver dans un prochain épisode pour parler de, effectivement, de là d'où ils viennent. On y va tranquillement dans ces épisodes. Les champignons, tu l'as dit, c'est 150 000 espèces. Mais ça, c'est juste celles qu'on connaît. Tu as bien dit que, en fait, il y en a des millions et sans doute même plus. C'est incroyable. Et voilà, je te retrouve très vite dans un prochain épisode pour parler de l'évolution des champignons. Comment sont-ils apparus? Et d'ici là, prends soin de toi. Salut Guillaume.
À tout de suite, Marc.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.